parler de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Après l'adoption de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant création de la brigade d'intervention, le gouvernement congolais demande au M23 de s'autodissoudre, ce qui n'est pas de l'avis de ces mouvements rebelles. Un accord pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo a été conclu mardi dernier entre le gouvernement congolais et les Nations Unies à Kinshasa. Les deux parties ont souligné la nécessité de neutraliser les groupes armés et d'initier un processus efficace des réformes du secteur de sécurité. Tels sont les thèmes que vous propose le Tribune de la Presse de ce soir. Nous avons dans cette émission Médard Mbuyal Mangala, il est rédacteur en chef adjoint à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Antigue. Bonsoir Médard Mbuyal Mangala.
Bonsoir Jim.
Innocent Kabukala, il est coordonnateur de Global Télévision, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent Kabukala.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Clément Mangoubou, il est éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani, en province orientale. Bonsoir Clément Mangoubou.
Bonsoir.
Après l'adoption de la résolution 2098, le gouvernement congolais demande au M23 de s'autodissoudre. Signature d'un accord entre le gouvernement congolais et les Nations Unies pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles. Pour savoir comment la presse a traité ces différentes informations, suivons cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux paraissant à Kinshasa cette semaine sont revenus sur la brigade d'intervention de la MONUSCO et la conférence de presse tenue en début de cette semaine par le ministre des Médias et son collègue des Affaires étrangères à ce sujet. Ces deux ministres ont appelé le mouvement du M23 à s'autodissoudre selon le potentiel. Ces deux membres du gouvernement estiment que le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution créant la brigade d'intervention de la MONUSCO est une victoire pour la diplomatie congolaise. Cette force, qui sera constituée de 3069 hommes, est chargée de combattre les groupes armés actifs à l'est de la RDC. La prospérité signale que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a salué cette résolution. Il s'agit pour lui d'une avancée significative pour la paix en République démocratique du Congo. L'avenir apporte qu'avec le déploiement de cette brigade d'intervention des Nations Unies voulue par la RDC, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans cette partie de l'Afrique. Le phare estime que la mise en place de cette brigade internationale d'intervention est une chance inespérée accordée aux autorités congolaises de se désengager pendant 12 mois du front Est pour faire avancer les opérations de recrutement ou de recyclage des militaires, policiers et agents des services de sécurité répondant au profil professionnel et patriotes réellement acquis à la défense de la patrie. Forum des estime qu'on devrait éviter que la résolution 2098 puisse produire l'effet d'anesthésie dans l'État congolais. Bien au contraire, à l'arrivée de cette brigade, le plus important pour Kinshasa consistera à renforcer l'autorité de l'État. Pour le palmarès, le vote 2098 du Conseil de sécurité a permis au gouvernement congolais de proclamer nul les pourparlers de Kampala. Sur un autre chapitre, le potentiel rapporte que la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en conflit, Zainab Awa Bangoura s'est dite préoccupée par l'ampleur des violences sexuelles liées au conflit en RDC. Elle a annoncé par ailleurs la signature d'un accord avec le gouvernement pour prévenir et aborder le problème des violences sexuelles en conflit. Pour la tempête des tropiques, cette haute fonctionnaire de l'ONU a constaté que les violences sexuelles sont particulièrement endémiques dans les zones où les groupes armés sont présents. Il s'agit notamment des Kivu et de la province orientale.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire Médard Mbuyal Mangala. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. L'actualité c'est aussi le report par les bureaux de l'Assemblée Nationale de la plénière de mercredi dernier au cours de laquelle la ministre de la Justice devait répondre à la question orale portant sur l'état des centres pénitentiaires de la République démocratique du Congo.
Ben, je vais dire que ce n'est qu'une question orale et généralement la question orale au sein de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat, ça n'a aucun impact parce que c'est un processus qui permet aux élus d'avoir accès à l'information de la part des ministres qui sont en charge d'un dossier et ça n'a aucun impact parce que généralement le niveau de, du moins le respect de la consigne de la part des députés membres de la majorité présidentielle est tel que, quelle que soit la nature de l'interpellation, la nature, il y a encore une solidité qui permet de sauver les ministres. Mais bah, c'est dès qu'il y a une opportunité d'accorder l'information aux députés, il faut les leur donner. C'est aussi ça, être la République.
Innocent Kaboukala, coordinateur de Global Télévision émettant depuis Kinshasa, le bureau de l'Assemblée nationale, avance comme raison de ces reports les quorums qui n'étaient pas atteints. Les quorums requis, c'est-à-dire la majorité absolue des 150 députés plus 1.
Bon, je pense que généralement, ça c'est que... C'est ce qu'on fait en pareille circonstance, parce que c'est vrai que je n'ai pas été à cette plénière-là pour constater en même temps que le bureau que ce quorum-là n'était pas atteint. Mais dans la mesure où cela s'est réalisé comme tel, donc le bureau a raison. Mais peut-être la question, ce serait au niveau de ce report-là, est-ce que ce n'est pas une manière pour le bureau de se concentrer davantage sur cette question et préparer une éventualité pour que ce que vous avez dit tout à l'heure, au cas où cette question orale avec débat a venu à une interpellation, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre déjà en place pour éviter, quand on sait que pour la plupart des cas, Médard essayait de le dire aussi, pour la plupart des cas il y a des consignes. Alors on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir, mais le plus important, je crois que on ne peut pas quand même priver les députés qui représentent dans cette mesure la population d'avoir accès à l'information sur la gestion des centres pénitentiaires.
Clément Mangoubou, éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. La raison avancée par les bureaux de l'Assemblée nationale n'a pas convaincu les députés auteurs de la question orale à l'endroit de la ministre. Et ces députés affirment que les bureaux de l'Assemblée nationale cherchent simplement à protéger la ministre ainsi que tous les gouvernements.
Vous savez, la question de la gestion des centres pénitentiaires au Congo est une question capitale, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces secteurs-là. Mais je me dis que le bureau de l'Assemblée nationale n'a aucun intérêt à protéger Madame la ministre. S'il y a vraiment des choses qu'on doit élucider, il faut que le bureau laisse que le quorum soit atteint pour que les choses soient clarifiées. Je crois que chercher à protéger la ministre, c'est plutôt renforcer la conviction selon laquelle il y a des choses à cacher. Et ce n'est pas bon pour la majorité, comme a souligné l'ami là-bas, qui serait aussi en train de chercher à protéger la ministre. Mais qu'est-ce qu'elle a caché finalement? Si les choses sont claires, si elle veut que la République soit respectée, elle n'a qu'à rendre compte au peuple congolais.
Mesdames, Mouyel Mangala, l'autre actualité, c'est l'enterrement hier ici à Kinshasa des trois joueurs des DSMP Motema Pembe qui sont morts dans un accident de circulation la semaine dernière à Limete.
Oui, il y a plutôt d'étonnement autour de la question. Ça s'est déroulé dans la ville de Kinshasa, où il y a concentration de tous les services de l'État, à la fois tous les services de renseignement militaire et civil, et on n'a pas été en mesure d'identifier le camion qui a été à la base. On a dit c'est un camion Jeffal qui appartiendrait à la police. Et même au niveau de la police, au niveau de l'armée, qu'on n'ait pas eu le temps d'identifier parmi les véhicules en circulation, le véhicule qui serait à la base de la perte des vies humaines, c'est quand même un fait grave dans une ville de Kinshasa. Et c'est intervenu à Limete sur le grand boulevard, le boulevard Lumumba. Et que ce véhicule qui allait dans la direction de l'aéroport serait-il allé jusque dans le Bandundu, dans le Bakongo ou dans le Kasai, au point qu'on ait perdu des traces jusqu'à aujourd'hui. Je me dis c'est extrêmement grave ce qui est arrivé.
Innocent Kaboukala, un mot aussi par rapport à cet accident qui a occasionné la mort de ces trois jeunes joueurs.
Vous savez, je ne sais pas, le vrai problème de la sécurité au niveau de nos routes, c'est celui de qui est au volant, pour la plupart des cas. Ce n'est pas un secret, on sait que ce véhicule, parce qu'il y a eu des témoignages, parce qu'il y a des confrères qui sont descendus sur les lieux, ils ont fait des interviews, comme on l'a dit, hein, pour les témoignages sur cet accident-là. De l'avis de tous ceux qui étaient là, sur place, on a parlé d'un camion qui appartiendrait à la police ou à l'armée. Mais on connaît comment ces grands camions se comportent, du moins leurs conducteurs, chaque fois que vous les croisez. beaucoup de gens se méfient. Déjà, quand vous êtes dans le sens inverse, dans le sens opposé, ou même lorsque ce véhicule est derrière vous, vous avez toujours peur. Pourquoi? Parce qu'on connaît ces gens, ils disent, ils n'ont rien à voir. La seule raison, ils appartiennent à l'État. Ce sont des militaires, et donc, puisqu'ils sont militaires, tout leur est permis. Ils peuvent conduire comme ils peuvent. C'est ça qui est arrivé. On ne veut rien dire, comme disait Médard tout à l'heure. Donc c'est ça le grand problème. On ne peut pas dévoiler ça. C'est difficile. Il faut qu'on garde ce flou-là et que la situation s'arrête à ce niveau-là.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir pour parler de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Après l'adoption de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant création de la brigade d'intervention, le gouvernement congolais demande au M23 de s'autodissoudre, ce qui n'est pas de l'avis de ces mouvements rebelles. Pour parler de Kampala, entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23, aucun accord final n'a été signé entre les deux parties près de 4 mois après le début des négociations. Le gouvernement congolais dit avoir soumis un projet d'accord que le M23 doit signer, mais ce dernier déclare disposer aussi de sa proposition d'accord qui doit nécessiter l'harmonisation avec celle du gouvernement. Cependant, dans une conférence de presse conjointe animée lundi dernier par les ministres des Affaires étrangères et son collègue des médias, le gouvernement congolais appelle le M23 à s'autodissoudre, ce qui n'est pas de l'avis de ces mouvements rebelles. Les détails avec Innocent Olenga.
Nous pensons que Kampala est l'unique voie pour résoudre les conflits armés dans l'est de la RDC et arriver à la paix durable, et nous sommes toujours attachés à ces pourparlers. On ne doit pas privilégier des solutions alternatives qui amènent des dégâts collatéraux innombrables, a déclaré ce matin à Radio Kapi René Abandi, secrétaire chargé des relations extérieures du M23 et celui-là même qui préside la délégation de ces mouvements rebelles à Kampala. Reconnaissant que le gouvernement congolais a fait une proposition d'accord qui leur a été soumis, René Abandi précise qu'il devaient aussi apporter leurs propositions d'accord de façon que les deux textes ressortent un consensus. Mais ils déplorent ce qu'ils qualifient des manœuvres de diversion du gouvernement. Mais à entendre les ministres congolais des Affaires étrangères, le M23 n'a qu'à signer l'accord proposé par les gouvernements. Remo Tshibanda.
Le M23 peut s'agiter autant qu'il veut. Son espérance de vie est très courte. Il n'est plus question de recycler les spécialistes de la rébellion dans les rangs des forces armées. Il n'est pas question de leur donner un avenir politique quelconque. Le seul avenir pour le M23, c'est de cesser d'exister comme mouvement politico-militaire.
À M23 de conclure que les 4 mois passés à Kampala n'ont pas été réellement du temps pour les gouvernements pour parler, mais plutôt du temps pour préparer une solution militaire.
Mesdames Mouyal Mangala, le gouvernement congolais pense que, étant donné que la résolution 2098 a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le M23 doit s'autodissoudre.
Guy Maté, c'était prévisible. Il y a eu plusieurs opinions congolaises, plusieurs opinions nationales qui se sont exprimées autour de la question. Au fait, comme chacun le savait, le pourparler de Kampala, ce n'était qu'une arme qu'on était en train d'offrir aux rebelles du M23. C'était une prime à la rébellion. C'était une voie royale pour arriver dans un gouvernement à la manière de 1+4 à l'issue du dialogue intercongolais. Et le CNDP est devenu par la suite M23, est habitué à ces mouvements, habitué à ces cadeaux, avec le mépris pour la démocratie, ne pouvait que se réjouir. Mais c'était prévisible, parce que souvenez-vous, avant d'arriver à Kampala pour des énièmes négociations, mais il y a eu Addis Abeba. Addis Abeba a identifié les acteurs de M23 comme les forces négatives avec lesquelles on ne pouvait pas collaborer. Mais bon, le gouvernement s'était-il entêté ou voulait-il aller jusqu'au bout pour donner de la chance, pour permettre à ses amis de tirer profit de je ne sais quoi? Mais c'était prévisible, on savait. Parce que en quoi consisterait cet accord? À l'issue duquel ces gens qui sont attendus au niveau de la CPI, qui sont sur la liste noire de la communauté internationale, il fallait encore leur donner une vie politique pour qu'à l'issue de leur vie politique, après avoir été au gouvernement, après s'être retrouvé au sein des forces armées, on allait dire non, nous vous retenons. Donc je me dis, ça a trop tardé, maintenant peut-être que le gouvernement a suffisamment de garantir de pouvoir mettre un système. Mais dès le début, on disait que c'était une perte du temps.
Merci. Innocent Kaboukala, selon Médard Mbouya Mangala, la prise de position du gouvernement congolais était prévisible. Mais il y a les M23 qui n'est pas d'accord avec cet avis du gouvernement congolais. Et ses dirigeants estiment que Kampala est l'unique voie pour résoudre les conflits armés en République démocratique du Congo.
D'abord, je voudrais comprendre ce que Médard dit autour. Quand il dit que la position du gouvernement était prévisible, ça veut dire que le gouvernement demande aujourd'hui aux M23 de s'autodissoudre, c'était prévisible. Non, je ne sais pas si c'est cela. Parce que si c'est le cas, moi j'ai une opinion tout à fait contraire.
Bon, en fait, c'était des relations difficiles qui ne pouvaient pas aboutir. Parce que si cet accord aboutissait, donc le gouvernement se mettrait sur le dos, la communauté internationale et tous les Congolais qui se battent pour l'émergence de la démocratie. Tous ceux qui croient à la démocratie, à une vie politique paisible.
Merci. Donc, Médard a précisé ta pensée. Innocent Kaboukala.
Non, moi je pense que je ne voudrais pas m'engager sur cette voie-là. Les déclarations du chef de délégation du M23, je crois qu'elles s'inscrivent dans la logique des objectifs que s'est assigné ce mouvement. C'est tout à fait normal. Ils ne peuvent pas, parce qu'on ne peut pas aller à négociation dans une position de faiblesse. À partir du moment que, pour eux, ils espéraient effectivement se mettre autour de la table d'ailleurs qui avait lieu, donc il fallait qu'on aboutisse par un accord qui mettrait les deux parties en face. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une espèce de dribble de la part du gouvernement qui ne veut plus aller au bout de sa logique. Je vais vous rappeler. Pourquoi le gouvernement est-il parti là? Tous les termes ont été utilisés. Prenons l'un d'entre eux. C'était quoi? Évaluer ces accords-là du 23 mars 2009. De là, on a dit aussi, en évaluant ces accords, c'était une manière d'expliquer aussi, rappeler à ce même mouvement que parmi les revendications d'autrefois, il y en a eu qui ont été prises en compte. Et que, puisque ce n'était qu'un processus, ça signifie que le gouvernement avait sa bonne foi pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa logique. Et que pour le M23, il y avait tellement du retard qu'il suspectait le gouvernement de ne pas tenir sa parole. Alors maintenant, est-ce que le gouvernement, à travers ce point de presse que nous avons suivi en début de semaine, a-t-il dit, si on a épuisé toutes ces voies-là, on a pu convaincre le M23? On n'a pas dit ça. Mais seulement on a dit, à la suite de l'adoption de la résolution 2098, voulais-je dire, directement, non, il faut que le M23, non. Tout simplement, pas. Et on dit que c'est une victoire de la diplomatie, non, ça n'a rien à voir.
Le M23 estime que Kampala constitue l'unique voie pour résoudre le conflit armé en RDC.
Donc pour eux, ils sont dans leur logique. Et leur logique, c'est qu'ils n'ont pas rencontré leurs revendications à travers le pourparlers de Kampala. Et tant que cela n'est pas encore arrivé, pour eux, ils n'ont pas lâché prise. Donc la guerre devrait se poursuivre. C'est cela que ça signifie. Alors le gouvernement ne doit pas continuer à dire ce qu'il dit là. Il faut prendre ça au sérieux et se donner la possibilité de s'organiser. Profiter de cet accord pour essayer de le capitaliser, pour essayer de s'organiser au niveau interne. Bien sûr, c'est déjà un peu tard parce que le temps que cela pourra prendre pour pouvoir s'organiser, ça pourrait être préjudiciable. Parce que tout ce qu'on sait maintenant, la calmie qu'il y a actuellement, c'est le fait tout simplement des Nations Unies.
Ok, Clément Mangoubou, le M23 estime qu'on ne doit pas privilégier des solutions alternatives qui amènent des dégâts collatéraux, innombrables, comme pour dire il faut faire l'économie d'ici.
Bon, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est en position de force parce que la vapeur a été renversée. Au départ, le gouvernement n'avait pas beaucoup d'arguments face au M23, mais aujourd'hui, le gouvernement est en train de savourer une certaine victoire diplomatique, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais est-il qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait épuisées? Comme l'a dit le confrère là-bas, est-ce que toutes les clauses de l'accord ont été réexaminées? Est-ce qu'on est tombé d'accord que les choses ont été appliquées comme il le fallait? Moi, je crois que le gouvernement aujourd'hui doit faire un effort pour s'organiser justement pour renforcer l'autorité de l'État et ne pas seulement compter sur cette force qui va venir. Parce que dans l'entretemps, les M23 est en train de renforcer ses positions, d'importer encore des hommes pour venir combattre. Je crois que on est dans une situation délicate maintenant. Maintenant, en attendant juillet, parce que je crois comprendre que la force sera établie effectivement au mois de juillet. Alors, pendant tout ce temps, pendant cette accalmie, qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui les M23 attaquaient? Serions-nous capables de résister ou les M23 ne peut-il pas marcher sur... Je crois qu'il y a des questions à se poser et je crois que les négociations, au point où elles sont arrivées, peuvent s'arrêter là, mais il faut conclure quand même avec les M23 pour dire voici ce dont nous avons discuté, voici où on est arrivé et voici ce que vous devez faire pour vous autodissoudre.
Médard Mbial Mangala, il y a des experts qui pensent qu'étant donné que les rapports de force n'ont pas été modifiés, les gouvernements ne devraient pas se précipiter à faire une telle déclaration. Ces experts se demandent sur quoi s'appuieraient ces gouvernements si les hostilités reprenaient aujourd'hui, hein, du fait de cette prise de position. Il faut reconnaître aussi que, effectivement, sur terrain, les rapports de force ne sont pas en faveur du gouvernement congolais.
Les rapports des forces ne sont pas en faveur du gouvernement congolais, mais sur le plan des relations internationales, qui est disposé à porter tous les dégâts que le M23 a causés pendant sa marche vers Goma. Parce que ces choses-là, on les oublie facilement. Le gouvernement peut être faible, certes, à ce niveau-là, mais lorsqu'on ramène ces choses au niveau le plus élevé, où le gouvernement n'est pas encore parvenu, parce que juste là, on n'a pas posé les questions des dégâts, des biens qui ont été emportés à Goma pendant le bref séjour du M23. Il va falloir que qui est responsable. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit aussi amener les choses. Parce qu'on a beaucoup blagué, on a trop donné le pouvoir aux rebelles, au point que même des députés ont préféré quitter leur poste pour aller rejoindre, parce qu'on se dit, cette fois, on a l'avantage certain de revenir encore comme ministre. C'est vrai, on peut être ministre, mais il faut rendre compte. Quand il va être le moment de rendre compte, qui, auprès du M23, devrait porter des responsabilités comme ça se fait ailleurs?
Et nous sommes comme quoi là, vous pensez qu'il était opportun pour le gouvernement de faire une telle déclaration quand on sait que les rapports de force ne sont pas en sa faveur? Il y en a même qui qualifient cette déclaration d'une déclaration belliciste.
Bien sûr, moi je pense que c'est une provocation de la part du gouvernement. Parce que l'honnêteté aurait demanderait que le gouvernement aille jusqu'au bout de sa logique. À partir du moment qu'il s'est engagé à discuter, à parler avec ces rebelles, bien que tout le monde savait que c'était des rebelles, c'était des gens à qui on ne pouvait pas donner autant de crédit, que le gouvernement lui a estimé qu'il y avait cette possibilité. J'y rappelle les termes qui ont été utilisés pour justement apaiser, pour se donner autant d'arguments afin de le rencontrer. On a parlé de l'évaluation, écoutez, et non pas aller négocier. On a évité tous ces termes-là pour se donner la possibilité et les raisons de se retrouver à Kampala. Alors, il doit aller jusqu'au bout de sa logique. Donc, moi, je pense que c'est une déclaration inopportune et qui ne prend pas en compte les conséquences qui pourront s'en suivre. La victoire aujourd'hui réclamée par le gouvernement n'a rien à voir avec lui. On sait que c'est parti déjà de l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que c'est là que tout est parti. À partir du moment que les Nations Unies s'étaient engagées lors des assises d'Addis Abeba, en sortie de toutes les recommandations qui ont été faites pour les uns et les autres, le gouvernement a essayé de trouver un peu ce souffle-là, parce qu'on essaie de comprimer un peu les manœuvres de ceux qui soutiennent ces rébellions, mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Il y a toujours beaucoup d'autres possibilités pour pouvoir contourner. D'abord, il y a la question intérieure ici. Est-ce qu'ils ont résolu cette question intérieure? Parce que pour prétendre qu'au niveau extérieur, il y aura cette accalmie qui va durer, demander au M23 de se dissoudre, ben, si cela arrivait à être fait. Mais au niveau interne, est-ce qu'on a résolu la question interne? Parce que ça jusqu'à aujourd'hui, cette question continue à garder à l'actualité. La question de la cohésion nationale à laquelle on a fait allusion. Où est passé le forum, le dialogue, les concertations et tous les termes autour de ces rencontres?
On n'en parle plus.
On n'en parle plus.
Clément Mangoubou, le gouvernement congolais ne serait-il pas embarrassé par cette question? D'un côté, il y a les M23 dont il faut prendre en compte les desiderata. De l'autre, il y a l'opinion publique congolaise, pas seulement l'opinion publique congolaise, mais aussi l'opinion publique à travers le monde, qui a du mal à gérer cette logique qui consiste à récompenser ceux qui prennent les armes.
Il n'est pas question de récompenser les rebelles aujourd'hui. Je crois que ce temps-là est révolu. Mais aujourd'hui, il est question de revenir sur la question qu'évoque mon confrère là-bas, la question de la cohésion nationale. Parce qu'il y a des grands problèmes en interne qu'on n'arrive pas encore à résoudre. Mais on ne peut pas continuer à primer ceux qui font la guerre à la nation. Et même si c'est dit Congolais, ils n'ont pas à venir détruire leur pays, non. À faire reculer les pays, non. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements doivent prendre des dispositions pour protéger ces populations de l'Est. Mais ce n'est pas à travers des discours de victoire diplomatique, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on arrête comme des dispositions pratiques pour que les drames ne surviennent plus à l'Est. Et je crois que le gouvernement prenne des dispositions pratiques pour protéger, parce que le gouvernement ne contrôle pas Rutshuru et bien d'autres localités par là. Le M23 est là, bien installé. Alors il faut maintenant chercher à contrer ces gens-là maintenant. On va attendre la force, oui, mais la force viendra seulement pour nous accompagner. Merci. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons dans l'entretemps?
Merci, mesdames Mouyal Mangala. Je repose la même question. Le gouvernement n'est-il pas embarrassé par cette question? D'un côté, il y a le mouvement M23 qu'il faut écouter, à qui il faut essayer de donner des réponses par rapport à leurs revendications. Mais de l'autre, il y a aussi l'opinion publique congolaise qui ne comprendrait pas que l'on puisse récompenser ceux-là qui ont pris les armes.
Je vous ai dit qu'il y a eu des mécanismes au niveau international. Il y a eu Addis Abeba. Addis Abeba, on a été sévère. On a été très sévère vis-à-vis de M23. Lorsque un mouvement est considéré comme les forces négatives, on ne négocie pas avec les forces négatives. Le gouvernement rwandais ne discute pas avec les forces négatives. Le gouvernement de Kampala ne discute pas avec Kony parce que c'est considéré comme les forces négatives. Mais c'est vrai, la prise de Goma a obligé le gouvernement congolais à se mettre à genoux, à vouloir discuter à tout prix, à chercher, à trouver une issue. Mais cette recherche d'issue creusait aussi un autre trou par rapport à la dimension interne de la question. Où est la démocratie si on est tout le temps en train de discuter avec ceux qui ont pris des armes? Donc c'est vraiment une prime à la rébellion, une prime à ceux qui veulent tuer en fait l'autorité de l'État, parce qu'il faut toujours se mettre dans une situation telle que à l'issue des négociations, on se retrouve ministre, on était caporal, et très vite, on se retrouve avec le galop de général, et le RCD nous a offert ça, le CNDP, ce n'était que normal que l'M23 puisse aussi tirer profit de ce qu'on a toujours fait.
Merci. Innocent Kabukala, comment répondez-vous à ceux qui pensent que la décision de la dissolution du M23 ne devrait pas provenir de la RDC, du gouvernement congolais, mais plutôt de la part de ceux qui ont créé ce mouvement, notamment le Rwanda, l'Ouganda, selon ces analystes?
Mais justement, cet avis-là est correct. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je suis allé en rébellion. C'est pas moi, bien sûr. Parlons de Dieu, c'est l'M23. L'M23 vient en rébellion. Avec, je dirais, une farde pleine de revendications. Vous comprenez? Mais si on réalise que les revendications ont été rencontrées, ça veut dire le mouvement, il peut dire, il va cesser d'exister. Il va le déclarer. Mais il n'est pas question que quelqu'un d'autre lui dise, comme si ce qu'eux-mêmes sont en train de revendiquer, ils ne savent pas voir si ça a été atteint ou pas. Donc, je crois que là, c'est au contraire, parce que ça fait plutôt un tabou, puisqu'on ne parle pas de la mission régalienne du gouvernement. C'est une question de sécurité, de paix, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement n'a pas été capable de le faire. L'une de vraies questions, si pas des résolutions, serait que ce gouvernement devait se remettre en question. On ne veut pas en parler. Parce qu'on estime que si on le dit, mais non, mais pourquoi on doit dire ça? Mais oui, effectivement, parce que c'est une mission régalienne. Puisque vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous n'avez pas pu sécuriser la population, vous n'avez pas donné satisfaction à cette population, vous pouvez vous mettre en cause, et avec toutes les conséquences que cela peut arriver.
Et à votre avis, quelle est la voie de sortie par rapport à cette situation? Le gouvernement qui pense que le M23 doit s'autodissoudre, et ce mouvement rebelle qui dit il faut continuer avec les pourparlers de Kampala. La voie de sortie, à votre avis, c'est quoi?
Mais la voie de sortie, pour moi, c'est ce que j'essaie de dire. Le gouvernement doit s'arrêter pour réfléchir.
Se remettre en cause.
Il doit se remettre en cause. En se remettant en cause, quelles sont les conséquences qui en découlent? c'est revenir au niveau interne, trouver la solution à l'interne, de manière à rendre efficace la force neutre qui devrait arriver.
Et pendant ce temps, sur le terrain?
Mais bien entendu, sur terrain, pendant ce temps sur terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on poursuit d'abord sa logique de parler avec le M23 pour enlever l'argument d'une attaque du M23. D'abord, on poursuit pour arrêter, et au niveau interne, on essaie de résoudre la question à travers des mécanismes, notamment pourquoi l'idée du forum, qui était pratiquement saluée par la quasi-totalité des gens, ne peut-elle être poursuivie? Pourquoi on doit se refuser de le faire? Mais sinon, à la limite, c'est constater son échec, se remettre en question, prendre des actes politiques qui sont aussi possibles, le déclarer par rapport à la population, et se dédouaner de cette manière-là, et à partir de là, vous donnerez la force à la force qui viendra, mais sinon, cette force ne viendra pas s'éterniser ici à la République démocratique du Congo. Elle est appelée à partir un jour.
Merci, Innocent Kaboukala. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Un accord pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo a été conclu mardi dernier entre le gouvernement congolais et les Nations Unies à Kinshasa. Les deux parties ont souligné la nécessité de neutraliser les groupes armés et d'initier un processus efficace des réformes du secteur de sécurité. En signant cet accord, le Premier ministre Matata Ponyo et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée des violences sexuelles en zone de conflit, Zainab Bangoura, ont souligné la nécessité de neutraliser les groupes armés et d'initier un processus efficace des réformes du secteur de sécurité. Mais l'ONG, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, demande au gouvernement d'aller au-delà de cet accord en sanctionnant les auteurs des violences sexuelles. Jeff Ngoy pour les détails.
Matata Ponyo et Zainab Bangoura se disent préoccupés par la persistance des violences sexuelles commises par les hommes en armes, principalement dans l'est de la RDC. La représentante onusienne vient juste de séjourner dans les deux provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'en province orientale où ces exactions sont perpétrées. Cet accord intervient au moment où expire l'ultimatum lancé par les Nations Unies à la RDC pour punir ses soldats accusés de viol en novembre dernier à Minova au Nord Kivu. La VSV qui soutient cet ultimatum insiste pour que cesse l'impunité des criminels. Son directeur exécutif Doli Ibefo en appelle au respect de la femme.
Il y a toujours des promesses de lutter contre ces viols. En réalité, le nombre ne fait que accroître. Il faut que la guerre qui utilise le corps de la femme comme terrain puisse s'arrêter. Les accords, oui, mais nous attendons que la femme congolaise, la jeune fille, surtout à l'Est, doit être respectée et que tous les auteurs soient sévèrement punis.
Au terme de l'accord, certaines mesures sont prévues par Kinshasa afin de prévenir les violences sexuelles. Il s'agit d'éviter d'intégrer des criminels dans les rangs des forces armées, d'assurer la réparation et d'assister les victimes.
Mesdames, Mouyal Mangala, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC en sigle. Comment analysez-vous cette démarche dans laquelle s'engage l'État congolais et les Nations Unies contre les violences sexuelles?
Bon, à mon niveau, je considère que cette démarche s'inscrit dans un dispositif législatif qui existe déjà dans notre pays. Souvenez-vous qu'en juin 2006, le président de la République a promulgué une loi sur le traitement des indications en rapport avec les violences sexuelles. C'était déjà une manière de sécuriser la femme, de sécuriser la jeune fille par rapport à la propension des violences sexuelles, en fait, qui sonnaient, bon, qui ont pris de l'extension avec les deux guerres intervenues en 96 et en 98, et plus tard avec tout ce que le M23 est en train de nous proposer comme plateau. Je crois que l'acte posé par le Premier ministre s'inscrit déjà dans la dimension juridique. On vient renforcer le cadre juridique dans notre pays, mais il faut davantage poser des actions. Et poser des actions, toujours aller dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État. Et la restauration de l'autorité de l'État impose ou implique que l'État soit réellement présent un peu partout, dont notamment enlever aux rébellions la possibilité d'administrer des espaces. Pour l'instant, Il y a des espaces entiers qui échappent au contrôle de l'État congolais. De là qu'une rébellion comme le M23 s'installe quelque part, il est tenté aussi d'imposer son administration. C'est des marques de violence. Donc la présence de structures pareilles perpétue des violences sexuelles. Et il va falloir aller plus loin parce que là où les rébellions s'installent, il n'y a pas de justice. Et là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'État.
Donc il faut nécessairement restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République.
Oui, parce que sans l'autorité de l'État, vous ne pouvez pas lutter contre les violences sexuelles.
Merci. Clément Mangoubou, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Mwangaza. C'est un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. L'ONG La Voix des Sans-Voix demande au gouvernement d'aller au-delà de cet accord en sanctionnant les auteurs des violences sexuelles. Il est de notoriété publique que l'impunité est parmi les facteurs qui non seulement entretiennent ces phénomènes, mais contribuent aussi à son renforcement.
Oui, effectivement, l'impunité encourage les violeurs à continuer à pratiquer des violences contre les femmes, qui a perdu pratiquement toute sa dignité dans les zones des conflits. Mais il faut le dire, il y a un problème avec notre justice aussi. Le ministre Mende le disait dernièrement que parmi les violeurs là, deux avaient déjà été jugés et condamnés et que la justice faisait calmement son travail. Je pense que non, la justice doit adopter une certaine vitesse, une certaine rigueur et un certain comportement pour que les choses aillent normalement. Il ne faut pas dire, bon, la justice doit prendre le temps qu'elle doit prendre, il faut ceci, il faut cela. Il faut plutôt que les gens soient jugés, condamnés, sanctionnés. Et là, ça va un peu dissuader ceux qui se livrent à cette pratique-là. Moi, je crois qu'aller au-delà signifie sanctionner les gens concrètement, que tout le monde voit, que tout le monde sente. Ils ont été sanctionnés et que l'impunité est cassée. Mais tant que ça va perdurer, je crois que les gens resteront incrédules.
Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes coordinateur de Global Television, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Comment expliquez-vous la persistance de ces phénomènes en République démocratique du Congo? Est-ce un problème des cadres juridiques qui n'est pas approprié aux réalités socio-culturelles de ces pays, de la RDC? Ou c'est tout simplement une apathie de la part de ceux qui doivent faire respecter la loi?
Mais justement, le deuxième cas me paraît plus évident.
L'apathie.
C'est cela. Le problème de notre pays, c'est que le cadre juridique qu'on en parle, on en a parlé. De rencontres, le Premier ministre, les rencontres, les structures des missions des Nations Unies, des ONG, tout ça, on en a connu, et ce, depuis 2002. Depuis 2002, on en parle. Mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais il y a un problème. Le problème, c'est que c'est longtemps après qu'on découvre qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'actes de trahison. Et le clientélisme fait que dans les chefs de gouvernants, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Regardez, on est en train de rappeler au gouvernement de poursuivre, de sanctionner. Parce qu'il y en a un qui me tombe déjà qui était là. Est-ce que c'est parce que le gouvernement avait oublié? Est-ce que c'est parce que le gouvernement n'était-il pas capable? Mais non, tout simplement parce qu'on hésite, on ne sait pas. Parce que pourquoi en est-on arrivé là? Alors, c'est des choses qui ne permettent pas un seul instant d'avoir du crédit par rapport au gouvernement. Et ça fait un sérieux problème. Alors, donc aujourd'hui, regardez un peu les Bakataratang. Jusqu'à aujourd'hui, aucune explication claire. D'exacts comme ça sont à répétition. Et à chaque fois. Mais les causes sont simples à trouver. À partir du moment qu'il y a toujours le problème de l'effectivité du pouvoir dans notre pays, ces actes reviendront. Et à ce moment-là, on aura toujours le même décor. Le Premier ministre, ça sera avec... si aujourd'hui, c'est avec cette ONG-là, demain, ça sera une autre structure, ainsi de suite, on va parler. Et regardez, pour la plupart des cas, c'est dans un beau décor. On prend son café, on le dit. Mais la réalité, c'est que les gens qui sont sur le terrain en souffrent. Et les vraies solutions, c'est l'action qui n'est toujours pas là. Et pourquoi elle tarde cette action? Des questions sont à poser au gouvernement.
Merci, Médard Mouyal Mangala. Au terme de cet accord, certaines mesures ont été prévues par le gouvernement de la RDC afin de prévenir les violences sexuelles. Il s'agit notamment d'éviter d'intégrer des criminels dans les rangs des FRDC.
C'est vrai, c'est un des éléments à l'explication, mais il y a plus que ça. Si vous ramenez cette situation, par exemple, dans la ville de Kinshasa, le cas de tous les bandits, notoirement connus, et qui sont tout le temps face aux barreaux, qui sont condamnés, ramenés dans les prisons.
Ils ne sont pas tous nécessairement militaires.
Et qui ne sont pas nécessairement des militaires. Ça signifie qu'il y a le vrai problème, c'est d'asseoir justement l'autorité de l'État, et cela dans tous les secteurs. La présence de l'État...
Et de combattre l'impunité.
C'est cela. Donc, à Kinshasa, il y a même les agents de l'État qui, de plus en plus, commencent à dire qu'ils se sentent dans la sécurité du seul fait qu'ils sont en train de traquer des voyous, ils sont en train de traquer des bandits. Mais une fois ces bandits amenés dans les prisons, il se trouve un avocat, il se trouve un magistrat qui, le lendemain, va prendre la grave décision de les libérer. Et qu'est-ce qui arrive? Et généralement, ces bandits, ces voyous, ils retournent vers l'agent de l'État qui les a aidés à les traquer, qui les a aidés à les identifier pour dire, mais voici, tu m'as amené dans la prison, je ne fais que 2 jours, je ne fais que 3 jours. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, cette question va au-delà de la violence sexuelle, va au-delà, finalement, c'est l'insécurité qui menace tout le monde. Même l'État lui-même se sent menacé.
Clément Mangoubou, à part ces mesures qui sont prévues dans cet accord, ne faut-il pas proposer, n'est-ce pas, des campagnes de sensibilisation dans les églises, dans les écoles, pourquoi pas dans les universités?
Mais cette campagne, je dirais, elle est là, parce que les gens en parlent tous les jours, et les médias ne cessent de revenir sur cette question tous les temps. Mais c'est aussi le travail qu'on peut donner à des églises, qu'il ne faut pas dormir tous les soirs pour éduquer les gens dans ce sens-là, parce que parmi les gens qui vont prier, il y a aussi des criminels. Alors il faut amener ces gens-là à quitter cet état de criminalité pour devenir des gens normaux dans la société. Il y a les églises, bien sûr, mais il y a aussi les écoles, il y a l'université et il y a d'autres milieux. Moi, je pense que s'il faut envisager une campagne, il faut que ce soit une campagne généralisée qui se fasse en synergie et au même moment, pendant un temps bien défini, pour permettre à tous les Congolais, à tout le monde, de suivre les programmes au même moment et pendant un temps bien précis. Je crois que ça pourrait aider à amorcer des solutions à ces problèmes-là.
Merci, c'est la fin de cette émission. Paul Badianyama était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, sous la supervision de Julien Nyamoni, devant ce micro, Guy Maté. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.